Bonjour à tous, frères et sœurs en Christ. Selon vous, dans toute l'histoire humaine, combien de condamnés à mort ont été graciés? D'après les informations dont dispose Amnesty International, en 2018, 8 prisonniers condamnés à mort ont été innocentés dans 14 pays. 1 en Égypte, 2 aux États-Unis, 3 au Koweït et 2 au Malawi. De nombreux innocents sont condamnés à mort dans le monde. En 2006, en Tanzanie, Hassan Mohamed Mteka, condamné à mort en 2004 pour meurtre, a été remis en liberté. La Cour d'appel a conclu que sa condamnation reposait très largement sur des éléments circonstanciels qui ne prouvaient pas indéniablement sa culpabilité. En avril 2005, en Chine, He Xiangling, condamné à mort pour le meurtre de sa femme en 1994, a été remis en liberté. Sa femme était en prison, elle en est sortie la même année. En juin 2007, en Jamaïque, Carl McHarg est sorti du quartier des condamnés à mort après avoir été acquitté en appel. En décembre 2003, au Myanmar, Thanh Thun, condamné à mort avec 8 autres personnes en novembre, a été remis en liberté. Il avait été arrêté par erreur. Le 28 août 2007, au Canada, la Cour d'appel de l'Ontario a renversé la condamnation de Stephen Truscott, reconnaissant qu'il s'agissait d'une erreur judiciaire. En 1959, Stephen Truscott, bien qu'âgé de 14 ans à l'époque, avait été condamné à la pendaison. Aux États-Unis, depuis 1973, 165 condamnés à mort ont été innocentés, dont 21 sur test ADN. De David Keaton, condamné en 1971, exonéré en 1973 au bout de 2 ans, à Clifford Williams Jr., condamné en 1976, exonéré en 2019, après 43 ans, les charges ayant été rejetées. D'après Amnesty International, la liste des condamnés à mort innocentés en Amérique ne cesse de s'allonger. En 1993, la sous-commission parlementaire des droits civils et constitutionnels du Congrès américain a publié un rapport sur l'application abusive de la peine de mort. Après avoir examiné 48 cas de condamnés à mort récemment libérés parce qu'ils étaient innocents, les auteurs du rapport ont déclaré que, je cite, « Les Américains ont toutes les raisons d'être préoccupés par l'idée qu'un innocent puisse être exécuté. À l'heure actuelle, le recours à la peine capitale aux États-Unis n'offre aucune garantie fiable contre ce risque. Des erreurs ont été commises à maintes reprises. » Et peuvent l'être encore dans des affaires passibles de la peine de mort parce que l'accusé était mal défendu, parce qu'il était victime de préjugés raciaux, parce que l'accusation a commis des fautes ou simplement parce que de fausses preuves ont été présentées. Une fois condamné, il devient très difficile pour un prisonnier du couloir de la mort, comme on l'appelle, de convaincre un tribunal qu'il est innocent. Fin de citation. Les enquêtes effectuées par Amnesty International depuis plusieurs années confirment cette conclusion. Pourtant, au lieu de chercher à corriger les carences qui peuvent coûter la vie à des innocents et qui ont été constatées par sa propre sous-commission, le Congrès américain a pris récemment des mesures qui réduisent encore davantage les garanties susceptibles de protéger les personnes accusées à tort de crimes passibles de la peine de mort. Très souvent, de nouveaux éléments tendant à prouver l'innocence du condamné ne sont même pas pris en considération lors de la procédure d'appel, en raison d'obstacles procéduraux qui visent à empêcher qu'un délai trop long ne sépare la condamnation de l'exécution. Ce vide juridique peut conduire à des situations invraisemblables, comme l'exécution imminente d'un condamné dont on doute encore sérieusement qu'il soit coupable, mais qui ne peut être évité parce que toutes les voies de recours légales ont été épuisées. Roger Coleman a été exécuté le 22 mai 1992 dans l'État de Virginie. De nouveaux éléments de preuve avaient fait surface plusieurs années après sa condamnation à mort. Ils incriminaient un autre suspect et remettaient en question la version du crime avancée par l'accusation. Les doutes qui persistaient sur la culpabilité de Roger Coleman étaient tellement troublants que le gouverneur de Virginie, Douglas Wilder, a proposé aux condamnés de se soumettre au détecteur de mensonges, au polygraphe. Ça me rappelle quelque chose parce qu'il y a quelques années, moi, j'ai moi-même subi le polygraphe. Je posais ma candidature pour la police dans le Colorado. Mais le polygraphe, en ce qui me concerne, j'ai dû faire deux essais et il ne pouvait pas conclure dans un sens ou dans l'autre. Ces machines ne sont pas parfaites. Il ne pouvait pas savoir, en d'autres termes, si je mentais ou si je disais la vérité. Comme il disait, c'était inconclusif. Et cette offre d'avoir le polygraphe impliquait que si les résultats étaient favorables aux condamnés, le gouverneur reviendrait éventuellement sur sa décision de ne pas commuer sa condamnation à mort. Le polygraphe enregistre les variations de l'activité cardiaque et de la tension artérielle que la tension liée au fait de mentir est censée provoquer. Ce test a été effectué le jour même où Roger Coleman devait être exécuté. Pendant le test, Roger Coleman était maintenu par des sangles et bardé de fils électriques, ce qui n'était pas sans rappeler la chaise électrique sur laquelle il allait être attaché peu après. Il n'est guère étonnant dans ces conditions qu'il ait raté ce test de détection de mensonges, ce qui lui a valu d'être exécuté dans les heures qui ont suivi. Le gouverneur Wilder a déclaré par la suite à la presse que s'il avait réussi le test, cela aurait pu modifier l'issue finale. Roger Coleman était accusé d'avoir violé et tué sa belle-sœur, Wanda McCoy, en 1981. Trop pauvre pour s'assurer les services d'un avocat, il avait été défendu par des avocats commis d'office, qui avaient omis d'enquêter en profondeur sur nombre d'éléments de preuve importants. Pendant le procès, la défense s'était également abstenue de contester certains points, des points essentiels de l'accusation, ce qui avait gravement limité la portée des appels interjectés après la condamnation. L'accusation reposait entièrement sur des preuves indirectes. Or, Roger Coleman avait été condamné à mort. La seule preuve directe était le témoignage de Roger Matney, un indicateur de l'administration pénitentiaire qui avait affirmé que l'accusé lui avait avoué être l'auteur du crime. Un mois avant le procès de Roger Coleman, Roger Matney, qui purgeait 4 peines d'emprisonnement, avait bénéficié d'un sursis et avait été libéré à la demande expresse du procureur chargé de l'affaire Coleman. Roger Matney avait rétracté son témoignage par la suite. La première fois que Roger Coleman avait voulu interjeter l'appel, il était représenté par des avocats qui n'avaient pas introduit à temps la requête devant la Cour suprême de Virginie. Par inadvertance, ils avaient effectué les démarches nécessaires juste après l'expiration du délai de 30 jours. Le ministère public avait demandé que la Cour d'appel rejette sans examiner au fond en invoquant le vice de procédure. La Cour avait sommairement débouté Roger Coleman de son appel sans réexaminer et en résumant les motifs de sa décision en un seul paragraphe. Les juridictions fédérales avaient, quant à elles, estimé que Roger Coleman ne pouvait déposer une requête en inconstitutionnalité. Ah, ça c'est un mot à prononcer celui-là, hein, parce qu'il avait renoncé, soi-disant, à son recours au niveau de l'État en présentant la requête hors délai. La Cour suprême des États-Unis avait entériné ce point de vue en évoquant la nécessité de respecter les jugements rendus par les tribunaux des États et l'obligation d'éviter au personnel judiciaire d'avoir à s'occuper d'affaires pénales qui traînent en longueur et restent non résolues. La décision de la Cour suprême dans l'affaire Coleman's et Thompson avait établi un précédent en vertu duquel les prisonniers qui ne suivent pas correctement la procédure des tribunaux des États perdent, dans pratiquement tous les cas, leur droit de solliciter au niveau fédéral le réexamen de leur condamnation au moyen d'une requête en habeas corpus. L'encyclopédie Larousse définit l'habeas corpus comme suit. Je cite, « Selon cette loi, toute personne arrêtée a le droit de passer devant le juge pour que celui-ci statue sur la légalité de son arrestation et décide éventuellement de sa remise en liberté. » La Cour suprême avait conclu que Roger Coleman devait, je cite, « assumer le risque qu'une erreur de ses avocats aboutisse à un vice de procédure. » Fin de citation. Elle avait en outre estimé qu'il ne pouvait invoquer des erreurs commises par les avocats qui devaient le défendre en appel, parce qu'au terme de la Constitution, il n'avait pas encore le droit d'être assisté d'un avocat à ce stade de la procédure. Roger Coleman travaillait dans les mines de charbon, dans la partie rurale de la Virginie. Comment aurait-il pu être au fait des procédures judiciaires propres aux crimes passibles de la peine de mort dans cet État, ou des subtilités du réexamen des condamnations au niveau fédéral par le biais des requêtes en habeas corpus? En concluant que l'accusé devait assumer les conséquences irrémédiables des erreurs commises par ses avocats, la Cour suprême avait réduit à des mots vides de sens les garanties juridiques les plus élémentaires qui sont contenues dans la Constitution américaine. Aux États-Unis, un dossier est jugé définitivement clos une fois que le condamné a été exécuté. Le système américain de justice pénale ne prévoit aucun mécanisme pour examiner des preuves d'innocence présentées à titre posthume, ce qui permettrait de mettre à jour ou au jour les erreurs ou des erreurs tragiques. Il est donc probable qu'on ne saura jamais avec une certitude absolue si Roger Coleman était coupable ou non du crime qui l'a envoyé à la chaise électrique. Son cas illustre cependant un nombre de carences structurales qui peuvent entraîner l'exécution d'innocents. Depuis 1972, aux États-Unis, plus de 75 hommes et femmes ont été remis en liberté après avoir vécu le cauchemar d'être condamnés à mort et incarcérés pour un crime qu'ils n'avaient pas commis. Rectifier ces erreurs monstrueuses a pris dans chaque cas entre 2 et 22 ans. Nombre de ces innocents ont échappé de justesse à l'exécution. Le nombre réel d'innocents condamnés puis libérés est certainement plus élevé que cela. En effet, lorsqu'une sentence capitale est infirmée, le ministère public propose souvent une peine correspondant au temps déjà purgé, si l'accusé accepte en échange de plaider coupable. Les accusés accusent donc de « reconnaître » entre guillemets leur culpabilité comme prix de leur liberté, plutôt que de risquer de passer plus de temps en prison et de subir un nouveau procès pouvant déboucher sur une nouvelle condamnation à mort. Il est probable qu'un grand nombre de condamnés qui décident de plaider coupable après l'infirmation d'un jugement antérieur n'ont en réalité pas commis le crime dont ils sont accusés. Même en faisant abstraction de ces cas particuliers, le nombre admis d'innocents condamnés à mort représente plus de 1% de la totalité des sentences capitales prononcées par les tribunaux américains de l'ère moderne. Cela signifie que pour 6 prisonniers mis à mort depuis la reprise des exécutions aux États-Unis, un innocent a été condamné à mourir avant d'être finalement acquitté. Combien d'autres prisonniers, tout aussi innocents mais moins chanceux, attendent leur exécution ou sont déjà morts? Dieu seul le sait. Mais qu'il me soit permis de reposer ma question du début. Selon vous, frères et sœurs, dans toute l'histoire humaine, combien de condamnés à mort auront été graciés? Je répète, selon vous, dans toute l'histoire humaine, combien de condamnés à mort auront été graciés? Combien d'êtres humains sont des condamnés à mort? Je repose ma question. Aux yeux de Dieu, combien sont innocents? Combien méritent la mort? Il est certes normal de s'offusquer de toutes les injustices commises par nos systèmes judiciaires, humains et imparfaits. Il est facile de s'offusquer de la condamnation d'un être humain et d'ignorer la condamnation la plus injuste de toutes, et la mise à mort la plus injuste et la plus cruelle dans l'histoire ayant eu lieu il y a 1988 ans, en l'an 31 de notre ère à Jérusalem. La condamnation à mort la plus injuste de toute l'histoire humaine n'était-elle pas celle de notre propre Créateur, de Jésus de Nazareth, qui était pourtant innocent et parfait? Soyons logiques. Qui, aux yeux de Dieu, est un criminel et mérite la mort? Qui a tué Christ? Nous tous. Tous les êtres humains. Combien d'êtres humains n'ont jamais eu de pensée criminelle? Peu, probablement. Il y a des gens qui sont pacifiques de nature. Donc, je ne peux pas dire nécessairement que tout le monde a des pensées criminelles. Mais pour ce qui est d'être parfait, ça c'est autre chose, n'est-ce pas? Combien d'êtres humains n'ont jamais haï qui que ce soit? Il doit y en avoir peu, finalement. Les pensées criminelles font de ceux qui les ont des meurtriers. En effet, l'apôtre Jean, dans sa première épître, a écrit ceci. Reportons-nous maintenant, si vous le voulez bien, à 1 Jean chapitre 3 et le verset 14. 1 Jean chapitre 3 et le verset 14. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie. Il parle aux chrétiens ici. Aux vrais chrétiens, à ceux qui sont convertis, parce que nous aimons les frères. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Quiconque hait son frère est un meurtrier. Et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. Jean a également précisé ce qui suit, et clairement. Reportons-nous à 1 Jean 3, 4 maintenant, 1 Jean chapitre 3 et le verset 4, tout proche, 1 Jean 3, 4. Quiconque pratique le péché, transgresse la loi. Et le péché est la transgression de la loi. Il est évidemment question de la loi divine ici. Et quelle est l'amende ou la peine qui doit être payée en cas de péché, en cas de transgression de cette loi divine? Romains chapitre 6, verset 23. Romains chapitre 6 et le verset 23. Le salaire du péché, ou l'amende du péché, l'amende encourue par le péché, c'est la mort. C'est la mort. Selon Dieu, qui donc est condamné à mort? Combien d'êtres humains sont condamnés à mort? Cela, Paul le précise également. Nous étions dans Romains, restons dans Romains, mais allons trois chapitres plus tôt, dans Romains chapitre 3. Romains chapitre 3 et le verset 23. Romains chapitre 3 et le verset 23. Combien d'êtres humains ont péché? Combien d'êtres humains sont condamnés à mort? Romains 3, 23. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Nous sommes tous des condamnés à mort. La mort est ce que nous méritons tous. Mais la bonne nouvelle, c'est que nous pouvons être graciés. Nous pouvons être graciés. À condition, et je précise bien, à condition que nous invoquions auprès du juge de toutes les âmes le rachat de la nôtre, individuellement. Il y a donc une condition. Pour être graciés, nous devons demander à notre juge aimant d'appliquer sur nous la peine de mort que son Fils Jésus-Christ a payée à notre place. Tous ceux qui croient, avec tout ce que cela sous-entend, tous ceux qui croient, mentionné au verset 22, sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Vous avez bien noté, ce n'est pas tout le monde, c'est ceux qui croient. Et dans cela, beaucoup de gens se trompent, se méprennent. Ils s'imaginent qu'aujourd'hui, tout le monde est sous la grâce. Vous avez des millions de chrétiens qui pensent être sous la grâce aujourd'hui. Eh bien non, pas nécessairement. Et dans bien des cas, ce n'est pas le cas. Tout comme je le mentionnais dans mon dernier sermon sur les deux alliances, nous sommes en présence d'un contrat. Nous devons respecter les conditions de ce contrat. Pour être sous la grâce, nous devons remplir les conditions stipulées. Paul mentionne ici que tous ceux qui croient sont gratuitement justifiés par la grâce divine. La part de ce contrat que nous devons remplir est donc d'avoir la foi. Ceux qui sont gratuitement justifiés sont ceux qui sont sous la foi, ou qui ont la foi, pardon. Pas n'importe qui. Il est écrit ailleurs qu'il ne s'agit pas de n'importe quelle sorte de foi non plus, mais qu'il s'agit d'une foi vivante, agissante. Comme on peut le lire dans Acte 2, quand ceux qui furent touchés par le sermon de Pierre lors de la Pentecôte demandèrent à ce dernier ce qu'ils devaient faire, Pierre le leur dit, il ne leur dit pas de se contenter de croire, n'est-ce pas ? Il leur dit clairement au verset 38 de Acte 2 de commencer par premièrement se repentir, premièrement de leur péché, deuxièmement de se faire baptiser au nom de Christ, ce qui leur permettrait de, troisièmement, recevoir le Saint-Esprit par imposition des mains d'un vrai serviteur de Dieu. Esprit qui leur donnerait la force d'éliminer le péché de leur vie. De, quatrièmement, croître dans la grâce et dans la connaissance, comme cela est mentionné dans 2 Pierre 3,18. Et cinquièmement, comme l'indiquent d'autres passages des Écritures, porter du fruit, en respectant notamment les commandements. Cela, la plupart des prédicateurs de ce monde ne le mentionnent pas. 1 Jean chapitre 5, verset 2. 1 Jean chapitre 5 et le verset 2. 1 Jean chapitre 5 et le verset 2. Nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu et que nous pratiquons ses commandements. Que nous pratiquons ses commandements. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ses commandements ne sont pas pénibles. Cela, Jean le répète. 2 Jean chapitre 1, verset 6. 2 Jean chapitre 1 et le verset 6. L'amour consiste à marcher selon ses commandements. C'est là le commandement dans lequel vous devez marcher, comme vous l'avez appris dès le commencement. Et porter du fruit, c'est aussi rester attaché au cep. Jean chapitre 15 et le verset 4. Jean chapitre 15 et le verset 4. Demeurez en moi, et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez pas non plus, si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep. Vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, comme le sarment, et il sèche. Puis on le ramasse, on le jette au feu et il brûle. Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, C'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Combien de chrétiens aujourd'hui portent beaucoup de fruits, spirituellement parlant? Vous connaissez la réponse à cette question. La grâce est un don gratuit. Mais pour être graciés, nous devons la demander avec foi. Avec tout ce que cela sous-entend, comme je le disais il y a quelques instants, des millions de chrétiens, littéralement des millions de chrétiens, fourvoyés par leurs faux ministres, pensent être sous la grâce, bien que ne l'étant pas. Rares sont ceux qui comprennent ce sujet de la loi et de la grâce. On entend souvent dire à présent que, puisque Christ est mort pour nos péchés, nous sommes tous sous la grâce. N'ayant rien d'autre à faire. C'est faux. Pourquoi? Parce que croire ou avoir la foi exige un certain comportement. Matthieu chapitre 7, verset 21. Matthieu chapitre 7 et le verset 21. Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Seulement celui-là. Le vrai christianisme ne se limite pas à du babillage, à de simples paroles dénuées d'action. Luc chapitre 6, verset 46. Luc chapitre 6 et le verset 46. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Je vous montrerai qui semblable tout homme qui vient à moi entend mes paroles et les met en pratique. Il est semblable à un homme qui, bâtissant une maison, a creusé profondément et a posé le fondement sur le roc. Une inondation est venue et le torrent s'est jeté contre cette maison sans pouvoir l'ébranler parce qu'elle était bien bâtie. Mais celui qui entend et ne met pas en pratique est semblable à un homme qui a bâti une maison sur la terre, sans fondement, certaines versions sur le sable. Le torrent s'est jeté contre elle, aussitôt elle est tombée et la ruine de cette maison a été grande. Vous savez, on nous accuse d'enseigner le salut par les œuvres. Cette accusation est un piège. C'est une question piège. Éphésiens chapitre 2, verset 8. Éphésiens chapitre 2 et le verset 8. Éphésiens, chapitre 2 et le verset 8. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, cela ne vient pas de nous, cela ne vient de personne humainement. C'est le don de Dieu, c'est un cadeau qui vient de Dieu. Verset 9. Ce n'est point par les œuvres, autrement dit, ce ne sont pas nos œuvres qui font que nous sommes sauvés. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Même avec de bonnes œuvres, nous ne méritons rien. La grâce est un don divin que nous ne méritons pas. Il ne faut pas oublier cela. C'est un don divin que nous ne méritons pas. Car nous sommes, verset 10, et ce verset est important, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ, pour créer de bonnes œuvres, afin que Dieu a préparé d'avance que nous les pratiquions, nous avons été créés pour de bonnes œuvres. C'est pourtant clair. Nos œuvres ne nous sauvent pas. La grâce est un don divin, non mérité, un cadeau de notre Père céleste, quand nous croyons en lui, quand nous avons la foi. Et beaucoup de gens pensent avoir la foi, mais ils n'ont pas la vraie foi. Ils n'ont pas la foi vivante requise pour se placer sous la grâce divine. Jacques chapitre 2, verset 18. Jacques chapitre 2, verset 18. Et il y en a certains qui disent « Oh, Jacques, ça ne fait pas partie de la Bible. » Pourquoi ? Parce que ça les dérange beaucoup, n'est-ce pas ? Jacques chapitre 2, verset 18. Jacques parle de la foi, de la vraie foi, de la foi vivante. Jacques chapitre 2 et le verset 18. Quelqu'un dira, cela décrit bien des faux ministres, n'est-ce pas? Des faux docteurs qui prêchent des faussetés. Quelqu'un dira, toi, tu as la foi et moi, j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres et moi, je te montrerai la foi avec mes œuvres. On compare les deux, n'est-ce pas? Tu crois qu'il y a un seul Dieu? Tu fais bien. Les démons le croient aussi. Les démons ont la foi aussi dans ce sens. Hein, ils jouent avec les mots ici, mais les démons aussi le croient. Ils croient en Dieu aussi. Et ils tremblent. Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile? Ça, c'est pourtant clair comme verset, n'est-ce pas? Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel? Tu vois que la foi agissait avec ses œuvres et que par les œuvres, la foi fut rendue parfaite. Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture. Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice et il fut appelé ami de Dieu. Vous voyez que l'homme est justifié par les œuvres et non par la foi seulement. Rahab, la prostituée, ne fut-elle pas également justifiée par les œuvres lorsqu'elle reçut les messagers et qu'elle les fit partir par un autre chemin? Comme le corps sans esprit est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. Très clair. La Bible nous apprend comment Dieu raisonne. Elle contient des lois qui nous ont été communiquées afin que nous soyons heureux, pour reprendre les paroles de Deutéronome 10:13. Afin que nous soyons heureux, et Romains 7:12. Ce sont des règles familiales, bénéfiques, qui nous montrent comment aimer Dieu comme il le désire. Et aimer notre prochain de manière à produire le plus de paix et de bonheur possible. Incidemment, aucun être humain, sauf Jésus-Christ, n'a jamais parfaitement observé les lois divines. S'opposer aux lois saintes et parfaites de l'Éternel crée un fossé entre nous et notre Créateur. Sa justice parfaite ne peut coexister avec la vile corruption du péché. L'horrible blâme de ce dernier doit être éliminé pour que les rapports familiaux étroits que Dieu veut que nous ayons entre nous et lui puissent exister. Bien que la loi définisse le péché, nous indiquant clairement ce qui est bien et ce qui est mal, observer la loi, même parfaitement, ne saurait effacer l'amende de nos péchés passés, ni nous réconcilier à Dieu. C'est pour et non pas par de bonnes œuvres que nous sommes sauvés, comme nous l'avons lu dans Éphésiens 2:10. La grâce de Dieu, son amour, sa miséricorde et ses dons généreux rend possible notre réconciliation avec lui. La grâce n'élimine pas les lois bénéfiques de notre Père Céleste, mais grâce au sacrifice du Christ, paie l'amende de nos péchés. Ça, c'est important, grâce au sacrifice du Christ. Il ne s'agit donc pas de la loi contre la grâce. Il n'y a pas de compétition entre les deux. Dieu nous révèle que la grâce et la loi vont de pair. Pourquoi tant de croyants pensent-ils que la grâce abolit la loi de Dieu, ou que l'une et l'autre s'opposent? Parce qu'ils n'ont pas encore l'amour de la vérité pour être sauvés, comme Paul le dit dans 2 Thessaloniciens 2:10. Et ils ne comprennent pas encore les pensées de notre Père Céleste et celles qui étaient en Jésus-Christ. Philippiens 2:5, ayez en vous les pensées qui étaient en Jésus-Christ. La grâce fait-elle obstacle aux saintes lois de Dieu? Est-elle en conflit avec elle? On pense souvent qu'on est soit sous la grâce, soit sous la loi. Or, que déclare la Bible? Comme je le disais précédemment, le mot « grâce » vient du mot grec « charis », dont est dérivé notre mot français « charité ». Le mot « grâce » signifie, entre autres, « faveur non méritée ». Et c'est le don de Dieu à ceux qui se sont sincèrement repentis d'avoir transgressé ces saintes lois. Je le répète, à ceux qui se sont sincèrement repentis d'avoir transgressé la loi divine. La grâce n'est pas accordée automatiquement à tous les êtres humains sans qu'ils aient à faire quoi que ce soit. Christ est mort pour nos péchés, peut-on lire dans 1 Corinthiens 15, 3. Mais quand Paul dit cela, il parle aux vrais chrétiens, ceux qui se sont repentis et vivent en nouveauté de vie. Des millions de chrétiens, souvent sincères mais fourvoyés, pensent vivre sous la grâce alors que ce n'est pas le cas. Du fait des imperfections des hommes, la mort de Christ permet à Dieu d'accorder la grâce à tous ceux qui se repentent sincèrement de leurs fautes et se mettent à vivre conformément aux voies justes de leur Créateur. Éphésiens chapitre 1, verset 7. Éphésiens 1, 7. Éphésiens chapitre 1 et le verset 7. En lui, nous avons la rédemption par son sang. En lui, en Christ, nous avons la rédemption par son sang, le pardon des péchés selon la richesse de sa grâce. Le mot rédemption signifie rachat ou rançon. Dans les temps anciens, on pouvait racheter une personne qui avait été vendue comme esclave. Parallèlement, Christ, par sa mort, nous a rachetés de l'esclavage du péché. L'amour incroyable que Jésus nous a témoigné en étant disposé à subir la peine de mort à notre place est décrit par le mot grec « charis », à nouveau, « grâce ». Charis, C-H-A-R-I-S. Le mot grec pour la grâce est probablement l'équivalent du mot hébreu « chesed », C-H-E-2-S-E-D, « chesed », qui signifie « bonté ». Un mot fréquemment utilisé par les psalmistes pour décrire le caractère de Dieu. Dans le Nouveau Testament, le mot charis signifie généralement la faveur ou la bonne volonté divine. Mais cela signifie aussi ce qui donne la joie et ce qui est un don gratuit. Une autre façon d'exprimer le sens de la grâce de Dieu est le grand amour de Dieu envers nous. La grâce décrit l'ensemble des dons merveilleux de Dieu, du pardon des péchés au don de la vie éternelle. Demander la grâce de Dieu a fait partie de nombreuses prières et de cérémonies officielles même au fil des siècles. Par exemple, lors du sacre de la reine Élisabeth II en 1953, les mots suivants ont été récités. Et je cite, « Tu as à présent consacré ta servante Élisabeth pour en faire notre reine, permettant que par l'onction de ta grâce, elle puisse défendre ta loi, ou ta foi, pardon, et être la protectrice de ton Église et de ton peuple. » On se soucie rarement de ce que représente la grâce de Dieu, et l'on se demande rarement quand et pourquoi Dieu l'accorde. Certaines personnes, à la suite d'expériences qu'elles ont vécues dans la vie, attribuent ce qui leur est arrivé à l'intervention et à la grâce de Dieu. C'était le cas du premier président américain George Washington. Dans l'été de 1755, pendant la guerre des Sept Ans, Washington était colonel sous le commandement du général britannique Braddock. Quand les forces de ce dernier se dirigèrent contre Fort Duquesne en juillet cette année-là, elles firent l'objet d'une attaque surprise et furent battues par les forces françaises. Le général Braddock fut tué et Washington battit en retraite avec le restant de ses soldats et s'enfuit vers la Virginie. Et le colonel Washington eut deux chevaux qu'il montait tués sous lui. Deux de ses chevaux furent tués sous lui. Et de retour en Virginie, il découvrit que son manteau avait été troué de 4 balles. Et pourtant, il était indemne. Croyant avoir été épargné par la grâce de Dieu, il écrivit ce qui suit à son frère John Augustine. Je cite, « J'existe maintenant parmi les vivants par les soins miraculeux de la Providence qui me protégeait au-delà de toute attente humaine. » La grâce de Dieu peut comprendre son intervention et sa direction miséricordieuse dans la vie d'individus. Toutefois, lorsque la Bible parle de la grâce de Dieu, elle fait généralement allusion à un sujet beaucoup plus important, beaucoup plus vaste et éternel même. Dieu révèle clairement dans sa parole que sa grâce est un don, c'est un cadeau. C'est le caractère même de la nature divine, riche et débordant d'actes de miséricorde, de compassion, de libéralité, comme Paul l'évoque dans Éphésiens chapitre 2. Éphésiens chapitre 2 et le verset 5. Éphésiens chapitre 2 et le verset 5. Nous qui étions morts par nos offenses, et à nouveau il s'adresse ici pas à n'importe qui, pas à tout le monde, mais à des vrais chrétiens. Nous qui étions morts par nos offenses, il nous a rendus vivants avec Christ, c'est par grâce que vous êtes sauvés. Et il nous a ressuscités ensemble, et nous a, et là c'est figurativement parlant, fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. À nouveau, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Nous avons déjà lu ce passage. Ce point est encore souligné dans Romains chapitre 5. Romains chapitre 5 et le verset 15. Romains 5, 15. Mais il n'en est pas du don gratuit comme de l'offense, car si par l'offense d'un seul, il y en a beaucoup qui sont morts, à plus forte raison, la grâce de Dieu et le don de la grâce, et le don de la grâce venant d'un seul homme, Jésus-Christ, ont-ils été abondamment répandus sur beaucoup. Le premier homme qui a péché, c'est Adam, tous les autres hommes ont péché après. Le don d'une offense par un seul homme, le premier, et ensuite il y a la question de l'autre homme, de l'autre Adam, du second Adam, Jésus-Christ. Et il n'en est pas du don comme de ce qui est arrivé par un seul qui a péché, car c'est après une seule offense que le jugement est devenu condamnation, tandis que le don gratuit devient justification après plusieurs offenses. Ainsi, la grâce est un don offert par Dieu. Mais la question se pose, est-ce que notre conduite joue un rôle déterminant si nous recevons sa grâce ? Les notions de péché, de repentance et de grâce sont étroitement liées. La grâce de Dieu, à travers le sacrifice de Christ, supprime l'amende du péché. Notre rôle, maintenant, est de nous repentir du péché et de suivre une voie différente. Je répète que nous avons un rôle à jouer. À nouveau, c'est un contrat. Pour être sous la grâce, il faut respecter le contrat. De même que pour être sous la nouvelle alliance, il faut respecter le contrat de la nouvelle alliance. Il faut en accepter les termes. Romains chapitre 6, verset 13. Romains chapitre 6 et le verset 13. Ne livrez pas vos membres au péché. Et là, il s'adresse à des membres, à des personnes qui ont déjà reçu le Saint-Esprit. Alors, rappelez-vous, lorsqu'il a écrit cela, il parlait à des vrais chrétiens qui avaient déjà reçu le Saint-Esprit. Et or, il leur dit, ne livrez pas vos membres au péché. Donc, ça veut dire clairement que c'est encore possible de livrer ses membres au péché, et il leur dit de ne pas le faire. Un choix est à faire dans ce cas-là, mais vous voyez, on n'est pas sauvé après, une fois que Christ est mort pour nos péchés, on fait ce qu'on veut après. C'est totalement faux. Nous devons respecter la part du contrat, nous devons obéir à Dieu. Nous devons nous rapprocher de lui, nous devons croître dans la grâce et dans la connaissance. Il y a quelque chose à faire. La grâce n'est pas gratuite. Ne livrez pas, elle est gratuite dans ce sens que nous ne pouvons pas la mériter, mais je veux dire, elle n'est pas gratuite dans le sens que nous devons remplir notre part du contrat, nous aussi. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivant de mort que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Non sous l'amende, ça aurait une meilleure traduction, non sous l'amende de la loi, mais sous la grâce. Nous ne sommes plus, une fois que nous sommes convertis, sous l'amende de la loi. Nous avons été rachetés. Quoi donc pécherions-nous parce que nous sommes non sous la loi, mais sous la grâce ? Bonne question, n'est-ce pas ? Parce qu'il y en a qui pensent que c'est le cas. Pécherions-nous ? Ah, nous sommes sous la grâce. Paul dit, pécherions-nous parce que nous sommes non sous la loi, mais sous la grâce. Loin de là. Ah, non, 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 non. Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice ? C'est clair, soyons logiques. Ce que Paul dit ici, c'est que nous ne devons pas livrer nos corps au péché. Nous ne devons pas pécher, en d'autres termes. Une fois que nous avons été rachetés, bien, nous devons vivre en nouveauté de vie, vivre différemment, pas comme nous le vivions auparavant. Cela, il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas cela. L'idée que Dieu accorde sa grâce indépendamment de notre conduite n'est pas nouvelle et ne contredit pas la parole de Dieu. La Bible contient des mises en garde répétées contre l'utilisation de la grâce comme d'une permission ou d'une licence de continuer dans le péché. Notre péché nous condamne à la peine de mort. Mais nous sommes pardonnés par la grâce de Dieu quand nous nous repentons et que nous changeons nos vies. Nous ne pouvons pas imaginer continuer dans le péché et en même temps continuer à être les bénéficiaires de la grâce. Les livres de Jude soulignent cette vérité. On peut y lire, « Car il s'est glissé parmi vous », et à nouveau, il s'adresse à des vrais chrétiens qui ont reçu le Saint-Esprit, qui sont rachetés. « Il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps, des impies qui changent la grâce de notre Dieu en dérèglement et qui renient notre seul Maître et Seigneur Jésus-Christ. » Ils changent la grâce de Dieu en dérèglement. La grâce est un don immérité de Dieu. Personne ne peut prétendre l'avoir gagné ou s'en être montré digne. Nous devons cependant accomplir de bonnes œuvres, marcher dans ses voies. Nous recevons également la grâce à travers la foi en Dieu et en Christ. Ainsi, la justification de nos péchés qui vient par la grâce exige la foi. Mais à nouveau, une foi vivante. Vous voyez comment tout cela se tient. Il y a un contrat à respecter dans tout cela. Sommes-nous sous la grâce ou sous la loi? Si nous sommes sous la grâce, ça ne veut pas dire que nous pouvons continuer à pécher. Ça veut dire que nous avons été rachetés, mais nous devons changer de vie, ne plus vivre, ne plus pécher. Comme l'a écrit Paul, ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a destiné à être par son sang pour ceux qui croiraient. Pour ceux qui croiraient, à nouveau, pas n'importe qui, pas tout le monde. Pour ceux qui croiraient, victime expiatoire, afin de montrer sa justice parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant, au temps de sa patience. Il montre ainsi sa justice dans le temps présent, de manière à être juste, tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. À nouveau, pas n'importe qui, mais il justifie celui qui a la foi en Jésus. Vous voyez, il ne faut pas oublier ces petits morceaux de phrases si importants. Cela, c'est dans Romains chapitre 3, incidemment. Romains 3 et les versets 24 et 20, à 26. Dieu justifie ceux qui ont la foi en Jésus, pas tout le monde. On prétend que ce que disaient les prophètes et tout l'Ancien Testament est périmé. Or, les deux se complètent. Ce qu'a déclaré le prophète Michée est toujours applicable. Michée a dit « On t'a fait connaître aux hommes ce qui est bien ». Ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. Cela, ça n'a pas changé. C'est toujours valide. Il y a un certain nombre de choses que Dieu est. Il n'a pas changé d'avis non plus. Il y a 6 choses que est l'Éternel et même 7 dont il a en horreur ou qu'il a en horreur. Les yeux hautains, la langue menteuse, les mains qui répandent le sang innocent, le cœur qui médite des projets iniques, les pieds qui se hâtent de courir au mal, le faux témoin qui dit des mensonges et celui qui excite des querelles entre frères. Tout ça, c'est toujours valide, c'est valable, c'est toujours applicable. Proverbe 6, il s'agit de Proverbe 6 et les versets 16 et 17. La grâce divine qui nous sauve de l'amende du péché est accordé dans un but précis à ceux qui se repentent et se détournent du péché, ont la foi et font preuve d'humilité. L'apôtre Paul a parlé à la fois de son désir de recevoir la guérison divine d'une maladie physique qu'il avait, incidemment, mais aussi du besoin bien plus important encore de recevoir la grâce de Dieu. Son infirmité physique est mentionnée dans 2 Corinthiens 12. Dans 2 Corinthiens 12, et je le lirai rapidement, faute de temps ici, et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, c'est 2 Corinthiens 12 et le verset 7 à 9, pour que je ne sois pas enflé d'orgueil à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharde dans la chair, un ange de Satan pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. Trois fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi, il m'a dit, ma grâce te suffit. Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. Paul n'a pas bénéficié de l'intervention qu'il cherchait pour ses infirmités physiques, mais il savait qu'il avait reçu quelque chose de bien plus important, la grâce de Dieu. Ceci le réconfortait parce qu'il savait qu'il avait été délivré de ses péchés. Et s'adressant aux Galates et à nous par voie de conséquence aussi, il fit allusion à cette grâce divine dont tous ont besoin. Dans son introduction dans Galates, par exemple, il dit que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu le Père et de notre Seigneur Jésus-Christ. C'était dans son esprit quelque chose de très important. Il a débuté par cela. Dieu est prêt à accorder sa grâce à ceux qui sont appelés et qui se convertissent. Et il le désire. Le reste dépend de nous. L'un des passages de l'Écriture révélant clairement l'enseignement de Jésus sur la loi et sur la grâce est celui dans lequel on amène devant Christ une femme adultère pour savoir s'il va prononcer le verdict prévu dans la situation par la loi de l'Ancien Testament, c'est-à-dire la mort par lapidation. Et il est question de cet épisode que nous connaissons bien dans Jean chapitre 8 et les versets 1 à 11. Jésus ne dit rien pour commencer. Il se contente d'écrire sur le sol. Quand les accusateurs insistent à ce qu'il se prononce, il déclare que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Et personne n'ose bouger à ce stade. Au moins, ils ont cette honnêteté. En fait, les accusateurs s'esquivent un à un, se perdant dans la foule et dans le temple. Tous ceux qui accusaient la femme ayant disparu, sans condamner cette dernière, Jésus, le seul à avoir été sans péché, ne la condamne pas non plus. Il dit, je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus, lui dit-il. Va et ne pêche plus. Lui faisant grâce, un cadeau de la bonté divine, Jésus pardonne à la femme, la délivrant d'une mort certaine, du fait de sa culpabilité. Il ne la traite pas comme elle le mérite. Jésus ne dit pas à la femme qu'elle est libre de continuer à se comporter comme avant, comme si elle n'avait pas été pardonnée. Non, il veut qu'elle change, qu'elle cesse de vivre de cette manière, qu'elle se repente. En somme, il lui dit, ne fais plus de bêtises, comporte-toi bien à présent. Quand Christ dit, ne pêche plus, cela veut bien dire ce que cela veut dire. Pécher, c'est agir ou avoir une pensée qui viole la loi de Dieu. 1 Jean 3, 4, comme nous l'avons vu. 2 Corinthiens 10, versets 4 à 6. Et non contrecarrer tel ou tel critère humain de comportement. C'est transgresser la loi de Dieu. Jésus lui dit en somme de se mettre dès lors à vivre conformément aux 10 commandements. Cet enseignement est confirmé par d'autres exemples dans les évangiles. Matthieu chapitre 22, verset 35. Matthieu chapitre 22 et le verset 35. L'un d'eux, docteur de la loi, lui posa cette question pour l'éprouver. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi ? Jésus lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. » C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. « Tu aimeras ton prochain comme toi-même, comme toi-même. » Jésus citait des passages de l'Ancien Testament qui résumaient les 10 commandements. Cette confrontation offrait à Jésus une occasion parfaite de clarifier, si besoin était, que sa mort éliminerait peu après, le besoin des commandements. Il ne déclare rien de tel. Cela aurait été faux. En citant ces commandements, il ne laissait aucun doute quant à la validité de ses enseignements. La validité de ses commandements. Jésus gardait les commandements, il enseignait aux autres à faire de même. Et cela place les gens qui ont une fausse conception de la loi dans une situation embarrassante. Comment en effet réconcilier le fait que Christ enseignait le respect des commandements à la notion selon laquelle Paul aurait enseigné que la loi a été abolie? Il y a des gens qui croient cela. Or, qu'est-ce que nous lisons dans 1 Corinthiens 11 et le verset 1? 1 Corinthiens chapitre 11 et le verset 1. 1 Corinthiens chapitre 11 et le verset 1. Paul n'a jamais rien dit qui contredisait Christ. Ça, il ne faut pas l'oublier parce qu'on prétend cela souvent. On tord les passages de Paul, mais Paul était conforme en tout à ce que Christ avait dit. Il a même amplifié bien des choses. Sous l'inspiration évidemment, divine, évidemment. Mais 1 Corinthiens 11, 1. « Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. » C'est clair. Il ne peut y avoir d'autre conclusion à cette déclaration que celle que Paul lui-même perpétuait et non contredisait les doctrines de Christ. Galates chapitre 1, verset 6, pense, ça s'applique à nous, à notre monde aujourd'hui aussi, comme ça s'appliquait aux Galates. Galates chapitre 1, verset 6. Galates chapitre 1 et le verset 6. Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent altérer l'évangile de Christ, le vrai. Mais si nous-mêmes, si un ange du ciel annonçait un évangile s'écartant de celui que nous avons prêché, qu'il soit anathème. Nous l'avons dit précédemment et je le répète à cette heure. Si quelqu'un vous annonce un évangile s'écartant de celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème, maudit en d'autres termes. Dans les versets 8 et 9, Paul prononce une malédiction sur quiconque ose proclamer un évangile différent, un message différent de celui enseigné par Jésus. Et en répétant cette malédiction, pour qu'il n'y ait aucun doute sur la teneur de sa déclaration, Paul lance un sévère avertissement à ceux qui veulent changer les enseignements de Christ. Romains chapitre 6, verset 1. Romains chapitre 6, verset 1 est un de ces autres passages très clairs qu'on ne peut réellement pas honnêtement tordre si facilement parce que c'est clair. Ou bien on y croit, ou bien on n'y croit pas. Romains chapitre 6, verset 1. Romains chapitre 6 et le verset 1. Que dirons-nous donc? Demeurerions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Hein, soi-disant, bon, plus on pêche, plus on aura de la grâce. Vous avez des gens qui disent ça. Est-ce que c'est logique? Et quelle est la réponse de Paul à cette question? Loin de là, nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Ça, si c'est pas clair, ben, écoutez, c'est pas clair pour ceux qui ne veulent pas voir ce qui est écrit ici. Et quelques versets plus loin, Paul réitère son enseignement en précisant ce qui suit. Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi ou sous sa malédiction, hein, mais sous la grâce. Quoi donc? Il répète, pécherions-nous parce que nous sommes non sous la loi, mais sous la grâce? Loin de là. Il faut bien comprendre que nous avons une responsabilité. Une responsabilité. Nous avons un contrat. Nous sommes en présence d'un contrat. Cette question de la grâce et de la loi est une question de contrat, comme je le précisais antérieurement. Hébreux chapitre 4, verset 16. Hébreux chapitre 4 et le verset 16. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Timothée chapitre 1 et le verset 12. Je rends grâce à celui qui m'a fortifié, à Jésus-Christ notre Seigneur, de ce qu'il m'a jugé fidèle en m'établissant dans le ministère, moi qui étais auparavant un blasphémateur, un persécuteur, un homme violent. Mais j'ai obtenu miséricorde parce que j'agissais par ignorance, dans l'incrédulité. Et la grâce de notre Seigneur a surabondé avec la foi et l'amour qui est en Jésus-Christ. Paul avait raison de s'attendre à être traité sévèrement, ayant persécuté avec zèle les premiers chrétiens, avant d'être lui-même converti. Mais au lieu de cela, il reçut une bienveillance et un pardon imprévu. Il fut lui-même appelé à devenir chrétien, mais non seulement chrétien, mais aussi ministre de la vérité. Néanmoins, cette miséricorde ne pardonna pas ses péchés et ne le justifia pas devant Dieu. C'est par la grâce qu'il obtint ces choses, par le sacrifice de Christ. Et ça, c'est important. Par le sacrifice de Christ. Nous avons tous besoin de grâce, mais nous ne pouvons pas la mériter ni la donner à d'autres. Elle n'est accordée que par le sacrifice du Christ. La miséricorde, en revanche, est quelque chose dont nous avons besoin à divers moments dans nos vies, et c'est quelque chose que nous devons avoir envers autrui. Mais la grâce comprend le pardon immérité du salut et beaucoup d'autres expressions de la grâce divine. Et ces dons exigent certaines responsabilités à nouveau de notre part. Dieu s'attend à ce que nous agissions d'une certaine manière en retour. Tous les êtres humains sont des condamnés à mort. Mais grâce au sacrifice de Christ, ils peuvent tous avoir leurs péchés effacés, être pardonnés et être graciés. N'oublions pas, frères et sœurs, que nous qui avons été appelés et qui sommes convertis, nous avons été graciés. Tant que nous nous repentons, nous demeurons sous la grâce. Quel merveilleux privilège! Que Dieu est patient et miséricordieux. Que Dieu est amour. Puissions-nous persévérer jusqu'à la fin afin d'être sauvés. Je vous souhaite à tous, frères et sœurs en Christ, une bonne fin de sabbat. Je vous souhaite bon courage et je vous dis au revoir et à bientôt.